Théologie mystique, père Philippe, 10 décembre 1982, Rimont.
Nous allons continuer le prologue de Saint Jean pour essayer d'entrer dans ce que représente la signification profonde de ce prologue, cette révélation du Verbe, du secret du Père, le Verbe du cœur, c'est-à-dire le secret que le Père porte en lui de toute éternité. Ce Verbe qui est ce à partir de quoi toute la création s'est réalisée. Mais Jean nous montre d'abord le Verbe par rapport à sa source, par rapport au principe énarché. Dans le principe, le Verbe était. Puis il nous montre comment toute la création se réalise à partir de lui. Et je vais souligner l'importance qu'il nous montrait ici, la dépendance radicale de toute chose à partir du Verbe de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. En lui était la vie, donc la dépendance radicale dans l'ordre de l'être, le point de vue de la vie, et enfin la lumière. Ces trois niveaux que de fait, dans toute la grande tradition théologique, on a toujours souligné, esse, vivere, intelligere. Saint Thomas reprend constamment ça à la suite des Pères de l'Église, qui est un grand aspect qui existe dans le néoplatonisme et que nous retrouvons, j'allais dire, ici, dans la perspective même du prologue de Saint Jean. Dans cette grande vision, il nous est montré Jean comme envoyé de Dieu, comme témoin de la lumière et comme celui à partir de qui tous peuvent croire, afin que tous crussent par lui. Alors je vous avais dit qu'il fallait mettre ça en parallèle avec ce qui nous est montré dans le début de la Genèse à propos des trois dimensions de l'image de Dieu, le dominium, l'intelligence et l'amour. Et ici, nous voyons bien que dominium est transformé dans la dépendance à l'égard de Dieu, envoyé de Dieu. L'intelligence, c'est le témoignage à l'égard de la lumière. Et afin que tous crussent par lui, c'est ce point de vue de l'amour. Celui-là n'est pas la lumière, mais il était témoin. Il devait témoigner au sujet de la lumière. Alors, à partir du verset 9, nous entrons dans le point de vue du gouvernement divin. Vous allez voir que cette division, elle est inscrite dans le prologue, exactement comme dans le début de la Genèse. Et saint Thomas reprendra cette division, la création et le gouvernement divin. Ici, la création vue dans la lumière du Verbe, et le gouvernement divin vu dans la lumière du Verbe. Première alliance. La lumière, la véritable, qui illumine tout homme, venait dans le monde. Il était dans le monde, et par lui le monde a été fait. Et le monde ne l'a pas connu. Donc c'est la première alliance, l'alliance fondamentale du Verbe de Dieu avec l'intelligence des hommes. Je crois ça très important, les deux grandes alliances fondamentales et naturelles, selon la Genèse, l'alliance selon la fécondité, la procréation, j'ai enfanté un fils avec Yahvé, et selon le prologue de Saint Jean, l'alliance de l'intelligence humaine avec le Verbe de Dieu. Notre intelligence est éclairée par le Verbe de Dieu, et c'est pour ça que notre intelligence est capable de remonter jusqu'à Dieu. Ce que l'Église a toujours maintenu, ces deux alliances. Je crois que c'est très important de considérer que là, nous sommes en présence des deux alliances fondamentales de l'homme à l'égard de Dieu. Et on peut dire qu'on assiste à la brisure de ces deux alliances. Ce qui, pour moi, représente justement les tremblements apocalyptiques. c'est le fait de ne plus reconnaître ces deux alliances. C'est l'homme qui veut redécouvrir son autonomie plénière en disant que Dieu n'existe pas, donc l'intelligence humaine est incapable de remonter jusqu'à Dieu, et que l'homme est capable lui-même de mesurer la fécondité, mesurer la vie. Et il n'est plus en dépendance de Dieu. Le planning familial se fait indépendamment de l'alliance à l'égard de Dieu. C'est très significatif. Vous voyez, si on essaie de comprendre qu'il y a deux alliances qui sont les alliances fortes de l'homme liées au corps et de l'homme dans son esprit. C'est les deux aspects les plus fonciers de l'homme. Et c'est là où nous saisissons les deux alliances naturelles. Ce n'est pas des alliances surnaturelles, mais naturelles. Et c'est pour ça que je dis que si on bouleverse ces alliances, ou on ne les accepte pas, c'est des tremblements apocalyptiques. Parce que l'homme ne repose plus sur le roc. S'il ne reconnaît plus la dépendance radicale à l'égard de Dieu, parce que Dieu n'existe pas, ou parce qu'il rejette Dieu, ou s'il pense qu'il est son propre maître par rapport à sa propre vie, l'homme devient un errant. Il ne sait plus où il va. Donc, première alliance. Deuxième alliance. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Alors ça, c'est l'alliance avec le peuple d'Israël. Et je crois que nous devons dire ici que c'est vraiment l'alliance avec le peuple d'Israël. Il est venu chez lui. Alors, par la foi, c'est dans la foi que le peuple d'Israël devient le peuple de Dieu. Et les siens ne l'ont pas accueilli. Donc, second rejet. Le premier rejet, c'est supprimer cette alliance fondamentale avec Dieu. La seconde brisure, c'est par rapport à la foi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Alors, vous savez qu'ici, la Bible de Jérusalem traduit un peu autrement. Hein. J'ai assisté à ces débats qui avaient lieu lorsqu'on a découvert, justement, chez les pères de l'Église, cette citation qui est mise au singulier. Vous vous rappelez suffisamment la traduction de la Bible de Jérusalem. Hostie a raison de traduire de cette manière-là. Et la Bible de Jérusalem n'a pas raison de traduire de cette manière-là. Parce que c'est la tradition qui doit l'emporter. Et c'est tout simplement, de fait, la traduction classique de l'Église, celle-là, celle que je vous ai lue. Hein? Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Ça montre que, déjà, dans l'alliance avec le peuple d'Israël, la grâce est communiquée, la grâce sanctifiante. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc qui ont reçu le Verbe de Dieu, qui ont reçu cette illumination du Verbe de Dieu, par le mystère de la parole, par le mystère de la foi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est par la foi qu'on est justifié. Et c'est la grâce qui fait de nous, qui fait que nous devenons enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. C'est le mystère donc de la foi. Qui ne sont pas nés du sang, ni du vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Alors la Bible de Jérusalem met au singulier, comme si ce verset 3 était rattaché au verset 14. Pourquoi la Bible de Jérusalem met-elle ça au singulier? Parce que certains pères de l'Église, alors on cite les pères de l'Église, toute une série de pères de l'Église, quand ils citent ce passage, ils le citent au singulier. Mais quand on sait la liberté avec laquelle les pères de l'Église citaient l'Écriture, c'est tout simplement en fonction du contexte. Les deux sont vrais, les deux versions sont vraies, c'est bien évident. Mais si vous essayez de garder le rythme du prologue, il est sûr que le verset 13 se rattache au verset 12 et non pas au verset 14. Parce que ça nous fait comprendre le mystère de la grâce tel qu'il existe dans l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire tel que le mystère de la grâce existe pour le peuple d'Israël. Alors à ce moment-là, c'est très fort. Hein. mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors n'oubliez pas, tous ceux qui l'ont reçu est la bonne. Recevoir traduit toujours dans saint Jean l'attitude de la foi. La foi nous met dans une attitude de réceptivité, l'attitude du petit enfant qui reçoit. La foi est premièrement une attitude de réceptivité. On adhère à ce qu'on reçoit. L'enfant reçoit, il ne fait pas lui-même le discernement. La foi ne nous fait pas le discernement, elle nous apprend à recevoir, à ouvrir notre cœur au don de la foi, au don de la lumière de Dieu. Et ici, il s'agit de la lumière. Donc il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. Alors voyez bien, le mystère de la grâce est montré comme un triple dépassement, qui ne sont pas nés du sang. La grâce n'est pas liée à l'atavisme, ni d'un vouloir de chair. La grâce n'est pas liée à l'instinct, ni d'un vouloir d'homme. La grâce n'est pas liée aux qualités humaines, mais elle est liée au bon plaisir de Dieu. La grâce nous fait naître de Dieu. C'est très très important, ce triple dépassement du mystère de la grâce. Parce que je crois que pour nous, c'est capital de comprendre ça. La grâce n'est jamais donnée selon les dimensions des qualités humaines. La grâce n'est jamais donnée selon ce que représente le point de vue psychologique. La grâce n'est pas donnée en fonction de l'atavisme. Même si vous avez des grands-pères qui sont des saints, vous pouvez être un schnappant. Ça arrive. Hein? Et vous avez pu avoir des grands-pères qui sont des schnappants et devenir un saint. Heureusement, du reste. Hein? Mais vous voyez, c'est important parce que dans l'Ancien Testament, il y avait toujours un tout petit peu ce fait d'une grâce qui est liée à toute une dépendance, un atavisme. Non, la grâce, elle est personnelle et individuelle. Elle est donnée à chacun pour lui-même et selon la mesure que Dieu veut. C'est Dieu qui est la mesure de notre grâce. Ce n'est pas la nature humaine qui est la mesure de la grâce. C'est pour ça que la psychologie ne peut rien nous dire sur le mystère de la grâce, comme la philosophie. Puissance obédientielle. Le théologien montre que, de fait, c'est vrai. Face à l'action du Verbe de Dieu, puisqu'ici il s'agit du Verbe de Dieu qui se communique à nous et qui se donne à nous, nous sommes comme le bois par rapport à la statue. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui, en œuvrant en nous, creuse en nous la capacité de vivre de la grâce. Et saint Thomas ajoute, chaque fois que la charité augmente, la capacité à l'égard d'une charité plus grande augmente. C'est pour ça que le désir augmente toujours. Et qu'on ne peut pas s'arrêter à un degré de grâce. Parce que la capacité, le désir augmente chaque fois. Alors, c'est très important de comprendre le caractère de cette seconde alliance, l'alliance avec le peuple d'Israël, qui implique donc déjà la grâce sanctifiante. Parce que certains prétendent que dans l'Ancien Testament, il n'y avait que le mystère de la foi et qu'il n'y avait pas déjà la grâce sanctifiante. Eh bien, il faut reconnaître que dans l'Ancien Testament, il y avait la grâce sanctifiante. Abraham est un ami de Dieu. Isaac est un ami de Dieu. Jacob est un ami de Dieu. Moïse est un ami de Dieu. Tous les prophètes sont des amis de Dieu. Ils sont des saints. Alors, il faut reconnaître que cette grâce qui leur est donnée, c'est la même grâce qu'à nous. Substantiellement, c'est la même grâce. La grâce d'Abraham et la nôtre, c'est la même. C'est pour ça que je peux recevoir ce qu'il dit à Abraham comme pour moi. Parce que c'est la même grâce substantiellement. La seule différence, c'est que pour nous, notre grâce s'explicite dans le mystère même du Christ Sauveur. Alors, cette grâce sanctifiante est au-delà des capacités de la nature humaine et ne dépend que de Dieu. Troisième alliance, et le Verbe est devenu chair. Alors, il faut remarquer la force de cette affirmation, egeneto sarx, et le Verbe est devenu chair. C'est très très fort. Voyez, les théologiens diront le Verbe assume la nature humaine. Ça, c'est le langage des théologiens. C'est très vrai. Mais le langage de l'Écriture a un réalisme beaucoup plus grand. Le Verbe est devenu chair. Alors pourquoi on dit ça? C'est pour que nous comprenions comment l'alliance avec Dieu, avec le Verbe, va toujours plus loin. Il y a comme trois niveaux de cette alliance. Premier niveau, naturel. Second niveau, par la parole de Dieu. Troisième niveau, le niveau chrétien. Le niveau qui se fait par le Christ. Ces trois niveaux nous font comprendre les trois manières dont Dieu nous enveloppe. Le triple enveloppement de la miséricorde de Dieu. Donc les triples alliances. Les triples miséricordes de Dieu à notre égard. Il y a un triple alliance, un triple enveloppement. Premièrement, Dieu saisit la fine pointe de notre intelligence. Première alliance. Le Verbe de Dieu illumine la fine pointe de notre intelligence. Deuxièmement, le Verbe de Dieu, par la foi, s'empare de notre cœur profond, de notre volonté, et redresse notre volonté par le mystère de la grâce. Et troisième miséricorde, ce n'est plus seulement l'intelligence et le cœur profond, c'est toute la sensibilité de l'homme qui est prise par la grâce et qui est transformée par la grâce. Et le Verbe est devenu chair. Il a demeuré parmi nous. Alors vous savez bien que demeurer, qui est un mot si cher à Saint Jean, il faut le regarder avec beaucoup, beaucoup d'attention. C'est le leitmotiv de tout l'évangile de Saint Jean. Demeurer. Alors demeurer veut dire dresser sa tente. Textuellement, hein. C'est dresser sa tente, c'est très beau, parce que ça montre la proximité, non? Vous voyez, quand il y a un très grand immeuble comme ici, on peut demeurer aux deux extrémités, n'est-ce pas? Alors c'est un peu lointain, tandis que dresser sa tente, on voit très bien ce que ça veut dire. Il a dressé sa tente parmi nous, c'est-à-dire qu'il veut être tout proche. Alors vous voyez, cette troisième alliance, c'est le mystère de l'incarnation. Selon la Bible de Jérusalem, le verset 13 se rattache au verset 14. Et vous voyez que ça reste vrai, c'est pas du tout contre, c'est pas du tout. Mais c'est du reste très souvent comme ça, quand il y a deux traditions, les deux choses sont vraies. Pour nous montrer que la parole de Dieu a des sens infinis. Elle n'a pas qu'un seul sens, elle a des sens infinis. Et je crois que c'est pour ça que le Saint-Esprit permet ces traditions diverses. C'est très beau. Parce que si, voyez, selon la grâce de l'Ancien Testament, la grâce est au-delà du sang, au-delà du vouloir de chair, au-delà du vouloir d'homme, si c'est vrai pour Abraham, c'est infiniment plus vrai pour Jésus. C'est bien évident. Et c'est pour ça que j'aime mieux le texte ancien qui me semble être plus en harmonie avec le prologue. Et le Verbe est devenu chair. Il est bien évident que le Verbe en devenant chair, ceci se fait de par l'opération de l'Esprit Saint et au-delà de tout vouloir d'homme, au-delà de tout vouloir de chair, au-delà de tout atavisme. Au-delà de tout atavisme, le mystère de l'Immaculée Conception, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a qu'un seul atavisme dans le Christ. C'est là la chose merveilleuse. Ce que saint Albert le Grand avait saisi avec beaucoup de force. Il n'y a qu'un seul atavisme dans le Christ. C'est pour ça que le Christ ressemble à sa mère, plus qu'aucun autre fils ne ressemble à sa mère. Vous savez, nous, on regarde toujours les ressemblances diverses, hein, en bas de la figure et en haut de la figure. Hein. Alors, d'un côté, c'est l'atavisme de droite, et de l'autre côté, c'est l'atavisme de gauche. N'est-ce pas? Tandis que lorsqu'il s'agit, il y a des atavismes multiples, et puis de temps en temps, on reconnaît le grand-oncle... dont on ne parle jamais, et qu'on retrouve un tout petit peu dans la physionomie. Alors on ne le dit pas, c'est, il y a dans toutes les familles un brigand, tu vois, qui, troisième, quatrième génération, qui était là. Alors on reconnaît, oh, bigre, hein, attention, il ne faut pas le dire. Les atavismes multiples, hein. Quand il s'agit du Christ, il n'y a qu'un seul atavisme. Elle est immaculée. Dieu a tout repris. radicalement Marie. Elle est un nouvel Ève. Elle est au-delà de tout l'atavisme. Elle est immaculée. Et Jésus ne dépend que de Marie. Et alors on peut appliquer là, vous savez, la parole que saint Augustin aime d'appliquer au mystère de Cana, en disant le second vin est meilleur que le premier, c'est pas étonnant parce que quand Dieu intervient directement au-delà de la nature, Dieu fait mieux les choses que la nature, parce qu'il est l'auteur de la nature. Et c'est très vrai. Alors pour la maternité divine de Marie, donc pour le mystère du Verbe devenu chair, il y a là un très beau principe. Est très beau, qui est très lumineux, c'est que la maternité divine de Marie est plus parfaite que toutes les autres maternités. Et c'est pour ça que toutes les générations la proclament bienheureuse. C'est les générations qui la proclament bienheureuse. La fécondité en Marie a connu une plénitude unique. Parce que justement, cette fécondité est miraculeuse, elle est divine. Et donc, Jésus ressemble à Marie d'une manière plus forte que tous les autres enfants. Et là, saint Albert le Grand développe ça à la manière de saint Albert le Grand. Parce que saint Albert le Grand a un amour extraordinaire de la nature. Vous savez, il a des... Quand on lit un peu saint Albert le Grand, on voit la manière dont saint Albert le Grand a regardé le nid des oiseaux pour essayer de voir comment se développait le crâne du petit oiseau. Soit. Il a un très très grand amour de cela. Un amour étonnant de ce que représente la nature comme telle. C'est beau, du reste, c'est très très beau. Et tout ça, c'est en vue de mieux connaître le Créateur et en vue de mieux connaître l'enfant Jésus et des liens entre l'enfant Jésus et Marie. Alors c'est là où il dit qu'il y avait entre l'enfant Jésus et Marie une harmonie parfaite à l'égard des sens, à l'égard du toucher, à l'égard du regard, à l'égard de l'ouïe. Pour que l'enfant Jésus puisse entendre toutes les mélodies de la voix de la très sainte Vierge. Et alors il fallait qu'il y ait cette harmonie parfaite entre l'enfant Jésus et Marie. C'est très beau. Et c'est contenu directement dans ce qui nous est montré ici. Et le Verbe est devenu chair. Et c'est la chair de Marie. Et il a demeuré parmi nous. Alors il a demeuré en Marie. Il a dressé sa tente. Il s'est enraciné en Marie. Et c'est en Marie qu'il a demeuré en premier lieu, le Verbe devenu chair. Dès le premier instant de la conception, le Verbe est devenu chair. En Marie, il s'est enraciné en elle. On voit bien cet enracinement de Dieu dans le sein maternel de Marie. Et nous avons contemplé sa gloire. Gloire comme celle que tient de son Père un Fils unique. C'est la première fois où apparaît le Fils. Ça aussi, c'est très intéressant au point de vue proprement théologique. Jusque-là, il a parlé du Verbe. Et ici, il parle du Fils. Comme si la révélation du Verbe comme Fils se réalisait à travers le mystère de l'incarnation. Le Verbe comme Verbe, j'allais dire la parole des prophètes suffit. Mais pour découvrir que le Verbe est Fils, il fallait le mystère de l'incarnation. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire comme celle que tient de son Père un Fils unique, plein de grâce et de vérité. Alors c'est le mystère de Cana, nous verrons. Parce que c'est au mystère de Cana qu'il manifesta sa gloire. Donc le point de départ de la vie apostolique de Jésus. Et le point de départ de la vie apostolique de Jésus lié à la croix. Toute la vie apostolique de Jésus, c'est la manifestation de sa gloire. Donc il y a les deux aspects, voyez, que saint Jean souligne tout de suite dans la Nouvelle Alliance. Les deux aspects, l'intimité, il a demeuré parmi nous, l'intimité, la vie cachée. Et puis la gloire, il manifeste sa gloire, il nous montre sa gloire. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire comme celle qu'il tient de son Père, un Fils unique plein de grâce et de vérité. Alors la Nouvelle Alliance, c'est la plénitude de la grâce et la plénitude de la vérité. Et ceci à travers le Verbe devenu chair. Nous avons donc, selon le prologue de saint Jean, trois étapes dans l'économie divine. Vous voyez comme c'est important de bien souligner cela. Trois étapes dans l'économie divine. Première étape, l'alliance du Verbe avec tout homme. J'allais dire l'étape des religions, quasi naturelles. Seconde étape, le point. C'est ce qu'on disait l'autre jour à propos, vous voyez, de l'éthique domestique, l'éthique au niveau de la famille. C'est cette alliance première, fondamentale, avec l'humanité. Le second aspect, c'est avec le peuple d'Israël. Et puis le troisième aspect, c'est proprement le point de vue chrétien. Jean témoigne à son sujet et il crie. C'était celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi est passé devant moi parce qu'avant moi il était. Voilà le contenu du témoignage de Jean-Baptiste. C'est très curieux. La manière dont est montré le témoignage de Jean-Baptiste, ce sont les liens de l'éternité et du temps. Autrement dit, il nous est tout de suite montré que le mystère du Verbe devenu chair, c'est l'éternité dans le temps. Et l'éternité dans le temps ne supprime pas le temps, mais lui donne une valeur unique. Et c'est cela le témoignage de Jean, le témoignage par excellence. C'est très important au point de vue de l'histoire, et au point de vue de l'histoire de l'Église, entre autres. Ça devrait être la grande lumière de l'histoire de l'Église. Et ça devrait être la grande lumière pour une théologie de l'Église. Jean témoigne à son sujet. Il crie. C'était celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi. Jésus a 6 mois de moins que Jean-Baptiste. Et c'est ça restera éternellement. Celui qui vient après moi. Exactement quand on entre 6 mois après à quelqu'un d'autre en famille religieuse, n'est-ce pas, ça reste éternellement. Celui qui vient après moi. Est passé devant moi. Ah, voilà l'éternité qui brûle le temps, sans le supprimer, parce que c'est toujours celui qui vient après moi. Il est passé devant moi, parce qu'avant moi il était. Le parce que c'est l'éternité dans le temps. C'est très sibyllin comme manière de témoigner, c'est très fort, c'est très beau, de voir que c'est les rapports du temps et de l'éternité que Jean-Baptiste reconnaît comme étant ce qu'il y a de premier à proclamer. La question de l'ordre, c'est la question de la sagesse. Il y a un nouvel ordre de choses à partir de la nouvelle alliance, parce que l'éternité est dans le temps. Alors vous voyez, par rapport à la Genèse, dans la Genèse, on montre les 6 jours, et c'est l'ordre du temps. Ici, on nous montre ce qu'il y a de tout à fait particulier avec le mystère de l'incarnation, c'est que l'éternité est dans le temps. Alors, parce que l'éternité est dans le temps, il y a ces choses mystérieuses que subitement celui qui vient après passe devant. Et c'est ce qui se passe constamment dans notre vie chrétienne. Dans la vie religieuse, n'en parlons pas. Parce qu'on a quelquefois des prieurs qui sont beaucoup plus jeunes que vous. Excellent témoignage de Jean-Baptiste. Dites-vous ça d'avance. Quand les prieurs sont plus âgés que vous, ça va encore, n'est-ce pas ? Parce qu'on dit c'est normal, ça c'est l'âge, l'ancienneté. Mais quand vous avez un tout jeune prieur, qui était, c'est pas seulement 6 mois, mais quelquefois beaucoup plus, beaucoup, une grosse différence, il passe devant. C'est le mystère de l'éternité. Ça va très loin, ça. Le mystère de l'éternité fait que le temps n'est plus un absolu. Alors, voyez, si je suis attentif, je vois que l'atavisme n'est plus un absolu. Je vois que le point de vue proprement de la volonté de l'homme, le point de vue psychologique n'est plus un absolu. Que le point de vue des qualités humaines n'est plus un absolu. C'est la grâce immanente à la nature. Et que le temps n'est plus un absolu. C'est l'éternité dans le temps qui relativise. Vous avez donc 4 manières de comprendre la relativité au point de vue profond que la grâce opère, que la nouvelle alliance opère. Alors, je crois qu'on peut comprendre le témoignage de Jean-Baptiste d'une manière très pratique pour nous. C'est un petit examen de conscience pour être capable de comprendre le témoignage de Jean-Baptiste. Nous demander si nous vivons toujours de ce même témoignage dans notre vie. Est-ce que pour nous, nous vivons de ce témoignage? C'est-à-dire, est-ce que ce témoignage est quelque chose de vivant? Jésus passe devant, parce qu'il est la lumière. Le mystère de la foi doit toujours passer devant tous nos raisonnements. Le mystère de l'espérance nous fait passer devant tous nos désirs. Et le mystère de la charité doit passer devant toutes nos sympathies ou nos antipathies. Ça va très loin. Oui, c'est la manière dont on comprend que le Benjamin passe devant. La grâce est toujours le Benjamin en nous, même si on a été baptisé le jour même de notre naissance. Si on a été baptisé un peu plus tard, c'est évident que la grâce est benjamine. Mais la grâce est toujours benjamine, par rapport à la conception, par rapport au premier moment de notre naissance. Il y a toujours le vieil homme en nous, et c'est pour ça qu'on l'appelle le vieil homme. Et le vieil homme, il est très très satisfait d'être le vieil homme, parce qu'il a beaucoup d'expérience. Et le vieil homme, il est lié à tous les autres vieux, tous les autres vieux. Il y a une alliance très très fondamentale du vieil homme avec tous les autres. Et ceci représente donc un droit d'aînesse. Le vieil homme a un droit d'aînesse, comparativement au petit Benjamin, qui n'a pas de droit d'aînesse, il vient après. Alors, le droit d'aînesse, c'est de faire passer devant notre intelligence humaine, nos expériences et nos raisonnements, notre philosophie. C'est de faire passer devant nos désirs les plus légitimes, c'est de faire passer devant notre amour humain. Le droit d'aînesse. Il faut au contraire que le Benjamin passe devant. Le Benjamin, il a quelque chose d'éternel. Il doit passer devant. La foi, l'espérance, là. Vous voyez comme ça va loin, le témoignage de Jean-Baptiste, hein, si j'essaie de creuser et de comprendre pour nous, parce que c'est pour nous, ça. Nous portons en nous le vieil homme et le Benjamin. Nous portons en nous deux hommes. Alors, saint Paul dit simplement deux hommes. Je dis que le premier, il est vieux. Et le second, il est jeune, toujours. Tant que nous sommes ici sur la terre, la foi nous met dans un état embryonnaire. Donc on est toujours jeune au point de vue de la foi, au point de vue de l'espérance aussi, au point de vue de la charité aussi. Parce que c'est l'éternité dans le temps. Tandis que le vieil homme, il a sa grande expérience. Le croyant, il n'a pas d'expérience. Il naît dans l'éternité. Il ne peut pas faire appel à ça. Tandis que le vieil homme, il fait appel à son expérience. Alors on comprend très bien l'attitude qu'il peut y avoir. Celui qui vient après moi est passé devant moi parce qu'avant moi il était. Voilà ce que nous devons dire en toute vérité. C'est une manière très très belle de faire son examen de conscience, voyez. Est-ce que la foi est toujours passée devant? Est-ce que l'espérance est toujours passée devant? Est-ce que la charité est toujours passée devant? Est-ce que j'ai toujours respecté le primat de l'éternité sur le temps? Pas si commode que ça, hein, de respecter le primat de l'éternité sur le temps. Et c'est ça, être chrétien. C'est ça, le témoignage chrétien. C'est de respecter l'éternité qui prime sur la succession du temps. Alors, dernier moment, le verset 16. « Car de sa plénitude nous avons tous reçu, et gratuité sur gratuité. » Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Un Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père, celui-là l'a fait connaître. Alors, dernier regard sur l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est la comparaison que j'en fais. Vous voyez, après avoir montré les trois alliances, Jean, dans un dernier moment, va comparer l'alliance ancienne et la nouvelle alliance. C'est très important ça, parce que c'est un des soucis constants de tout l'évangile de saint Jean. Jean, parmi les évangélistes, est le plus enraciné dans l'ancienne alliance. Et donc c'est celui qui a le plus le souci de nous faire comprendre que représente le dépassement du mystère du Christ par rapport à l'ancienne alliance. L'épître aux Hébreux le montre bien. C'est pas de Jean, mais c'est d'un disciple de Jean, sans doute. Et dans tout l'évangile de Jean, nous le trouvons. Alors c'est intéressant de le trouver ici, marqué dans la nouvelle alliance, à la fin du prologue. De sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. La nouvelle alliance, c'est une alliance de plénitude. C'est une alliance de gratuité sur gratuité. À la différence de la loi qui a été donnée par Moïse. La loi n'est pas une gratuité, tandis que la grâce est une gratuité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Toute la différence qui existe entre Moïse et Jésus-Christ, vous voyez, nous retrouvons l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux montrait ça de façon très nette, le sacerdoce de Moïse, du Christ au-delà de Moïse. Ici, vous retrouvez le parallélisme entre les deux. Exactement le même parallélisme, hein. La grâce vient du Christ, la grâce est sacerdotale, la loi n'est pas sacerdotale. La loi est religieuse, mais pas sacerdotale. Tandis qu'au contraire, la grâce est sacerdotale. C'est toute la différence qui existe entre l'Ancien Testament, qui est premièrement religieux, et la Nouvelle Alliance, qui est premièrement sacerdotale. Elle est sacerdotale en assumant le point de vue religieux. Vous voyez, c'est très important pour comprendre la signification profonde de la communauté Saint-Jean. C'est le point de vue sacerdotal qui est premier. Mais comprenons bien, sacerdotal, ça ne veut pas dire le sacerdoce ministériel. C'est le sacerdoce de Marie. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Ce n'est pas la grâce ministérielle, alors on tomberait dans un aspect qui ne serait plus juste. On entre dans la communauté Saint-Jean pour suivre l'agneau partout où il va, comme Marie. C'est donc le point de vue du sacerdoce royal de Marie. C'est ça qui prime et qui fait comprendre tout le mystère de la compassion de Marie. Et qui fait comprendre comment le sacerdoce de Marie est complémentaire du sacerdoce du Christ. Tandis que l'ancienne alliance est une alliance premièrement religieuse. Alors, il n'y a pas d'opposition entre les deux, ne faisons pas d'opposition, c'est un ordre. Entre les deux. Dans la nouvelle alliance, le sacerdoce fonde l'aspect religieux. Dans l'ancienne alliance, l'aspect religieux s'achève dans le sacerdoce. C'est pas la même chose, vous voyez, il y a un ordre différent. Car la loi a été donnée par Moïse, et ça c'est textuellement ce que dit saint Jean, hein, il suffit de lire et de le comprendre. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité, et on souligne la grâce et la vérité, c'est l'aspect sacerdotal contemplatif. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Un Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père, celui-là l'a fait connaître. Alors la dernière affirmation est très très forte. C'est de nous faire comprendre ce pourquoi Jésus est venu. C'est parce que Dieu, personne ne l'a jamais vu. Un Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père, celui-là l'a fait connaître. C'est celui qui est dans le sein du Père, in sinu patris, c'est celui qui est dans le sein du Père. Et ça, c'est le mystère sacerdotal du Christ. C'est celui qui est dans le sein du Père, in sinu patris. C'est celui-là qui nous révèle le mystère même du Père. Il nous révèle donc l'intimité du Fils bien-aimé à l'égard de son Père. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Un Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père, celui-là l'a fait connaître. Jésus contemple. Il est dans le sein du Père. Il contemple le Père. Et par lui et en lui, nous contemplons. C'est pour ça que notre contemplation est médiatisée par celle de Jésus. Il suffit que nous touchions dans la foi le cœur de Jésus pour que nous puissions contempler le Père avec lui. Nous n'avons pas besoin de voir, lui voit. Lui contemple. Et nous, nous avons la foi qui nous permet d'adhérer pleinement à ce que lui voit. Nous adhérons pleinement à lui-même et comme lui voit, nous contemplons par lui et en lui. Puisque Dieu, personne ne l'a vu. Donc on ne peut pas le contempler. Mais Dieu, un Dieu, Fils unique qui est dans le sein du Père, celui-là l'a fait connaître. Avant de quitter le prologue, je voudrais faire cette petite remarque encore. Parallèlement, si vous voulez, aux 11 premiers chapitres de la Genèse. Dans les 11 premiers chapitres de la Genèse, nous verrons que d'une certaine manière, les 11 premiers chapitres de la Genèse sont une petite maquette de l'économie divine, de tout ce que Dieu réalisera à travers le monde. On peut le dire, ça. C'est une petite maquette. C'est pour ça que ces 11 premiers chapitres de la Genèse ont une valeur tout à fait particulière. Ce n'est pas au sens strict de l'histoire. Ce sont des faits historiques, mais c'est pas de l'histoire. Ce sont des faits historiques chargés d'une valeur symbolique. Et chargés d'une valeur symbolique telle qu'ils ponctuent toute l'humanité. Toute l'histoire de l'humanité est ponctuée par ces quatre grandes fautes. Chassé du paradis terrestre. Caïn qui tue Abel. Le déluge. La tour de Babel. Ce sont quatre faits qui en valent la peine. Ça ponctue l'histoire de l'humanité. Et vous allez tout de suite comprendre, ça ponctue l'histoire de l'humanité. Ça nous fait comprendre le drame dans lequel l'homme se trouve. Il se trouve dans ce drame, que dans ce tragique, si vous voulez, le tragique nietzschéen, il est là. Et nous devons le voir à quatre dimensions. Il y en a une cinquième, toujours, il y en a cinq. Hein. Il y a une cinquième dimension qui est très cachée, mais elle n'est pas immédiatement visible. Il y en a quatre qui sont très nettes. Chassé du paradis terrestre, nous comprenons, conséquence de l'orgueil. Il tue son frère Abel, conséquence de la jalousie. Première brisure à l'égard de Dieu, seconde brisure à l'égard de nos frères. Hein, c'est les deux grandes brisures par rapport à l'amour. L'amour à l'égard de Dieu, l'amour à l'égard du prochain. La première brisure à l'égard de Dieu, l'orgueil. La seconde brisure, c'est à l'égard du prochain, la jalousie. La troisième brisure, elle est universelle. Vous voyez, les deux premières brisures sont personnelles. La troisième a une dimension communautaire. On dirait aujourd'hui collective, parce qu'on parle toujours d'un péché collectif. N'est-ce pas ? Vous voyez bien que selon l'Écriture, il y a d'abord deux fautes personnelles, dont une conséquence collective. Et la conséquence collective, c'est que l'homme n'a pas de respect vis-à-vis de l'homme. C'est la destruction du respect. Et c'est la destruction du respect qui fait que Dieu a envie de détruire l'homme. Dieu a un dégoût profond sur l'homme. C'est un langage très anthropomorphique, mais c'est un langage très fort. Dieu a envie de détruire ce qu'il a créé. Et parce qu'il y a un juste, il reprend tout. Il reprend tout à travers Noé. Alors, cinquième dimension, vous savez, c'est au moment de l'ivresse de Noé, il y a un partage entre ses fils. C'est la paternité de Noé qui fait un partage. C'est très très beau du reste. Hein, parce que ça montre à ce moment-là que la paternité est liée à l'autorité du père. Les fils qui respectent leur père malgré l'ivresse de leur père. Et ceux qui abusent de l'ivresse de leur père. Leur père n'en peut rien de cet temps. Il a trouvé que le vin était bon, il n'avait pas d'expérience. Alors c'est pour ça qu'il n'est pas coupable, n'est-ce pas ? Et c'est vrai, il tombe ivre dès qu'il prend ce nectar extraordinaire, parce que le premier nectar de la vigne devait être particulièrement bon. Alors on voit très bien qu'il tombe dans l'ivresse, et alors il y a ce partage des fils de Noé. Et c'est en second, mais c'est intéressant. Et puis alors, le dernier point, c'est l'orgueil collectif de l'humanité. L'orgueil collectif du nazisme, c'est le dernier point, c'est la tour de Babel. Alors vous avez tout l'âge de l'humanité. Premièrement, chassé du paradis terrestre, on sait très bien. Deuxièmement, l'alliance avec le peuple d'Israël qui se termine mal, la jalousie des grands prêtres, des frères aînés à l'égard du cadet. Caïn qui tue Abel. Les prophètes qui sont tués par leurs aînés. Donc ça, c'est une chose commune. Noé, c'est le mystère de Jésus. C'est le mystère de Jésus. Et Noé, dans la grande ivresse de l'amour, sur la croix, le partage, un signe en but à la contradiction. Puis tout s'achève dans la tour de Babel. Tout s'achève dans la tour de Babel. C'est le dernier signe, la tour de Babel. C'est l'orgueil collectif de l'humanité qui n'a plus besoin de Dieu, qui chasse Dieu. C'est pour ça que je crois qu'on est sous le signe de la tour de Babel. Parce que c'est vraiment le dernier qui nous est montré. C'est que les hommes n'ont pas compris la miséricorde du Christ et ils veulent par eux-mêmes se sauver. Et le Saint-Père a dit que c'était la grande tentation de l'Église. Donc le Saint-Père lui-même a indiqué que nous étions sous le signe de la tour de Babel. Si je traduis un peu ce que nous dit le Saint-Père, je vois que c'est le signe de la tour de Babel. Donc nous sommes sous ce dernier signe, c'est le dernier. Et on comprend très bien que c'est le dernier, il ne peut plus rien avoir d'autre. Hein. C'est l'humanité qui s'unit dans l'orgueil pour chasser Dieu de son cœur. Il n'y a plus de place pour Dieu dans l'humanité, dans le cœur de l'homme. Alors c'est vraiment le signe de la tour de Babel. Vous voyez, si je fais le parallélisme avec ici, il faut faire le parallélisme, puisqu'il y a un parallélisme du côté de la création, il doit y avoir un parallélisme du côté du gouvernement divin. La Genèse nous montre l'économie divine du côté du péché. Jean nous montre l'économie divine du côté de l'Alliance. C'est quand même très très curieux, c'est beau ça. Ça nous montre le côté négatif par lequel on ponctue d'abord le point de vue de l'humanité, l'aspect génétique, et puis au contraire l'aspect des alliances, l'aspect de perfection. Vous avez les deux. Alors vous allez me dire, mais ça ne colle pas du tout, puisque d'un côté vous avez quatre et de l'autre côté vous avez trois. C'est justement là, je crois, ce qui nous est montré de cette manière très très forte. Première alliance, chassée du paradis terrestre, et le monde ne l'a pas connue. Deuxièmement, l'alliance avec le peuple d'Israël, c'est net. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Troisième alliance, celle du Verbe devenu chair, Noé. C'est la quatrième qui n'est pas montrée, la tour de Babel. Vous ne trouvez pas l'analogue de la tour de Babel dans le prologue. Et ça, je trouve ça très beau. Jean connaissait bien, et le Saint-Esprit connaissait encore mieux que Jean. Donc, s'il y a le parallélisme avec les trois, et que le quatrième n'est pas montré, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'alliance avec le Christ est dernière et plénière, et qu'elle est capable d'absorber ce qui nous est montré à travers la tour de Babel. Jean nous montre la grande victoire de Dieu dans cette alliance du Verbe devenu chair. Cette alliance du Verbe devenu chair, c'est « je suis la résurrection ». Et donc, c'est la victoire suprême de l'amour. Et donc, du côté de l'Alliance, il n'y a plus de tour de Babel. La tour de Babel, c'est les hommes qui rejettent, mais c'est purement négatif. Et la seule réponse que Dieu donne à la tour de Babel, c'est le Verbe devenu chair. Et donc, il y a trois alliances, et puis il y a les quatre fautes.